l'introduction de Jérémie, c'est que l'Esprit de Dieu est vraiment vivant. Et Jérémie savait quel thème j'aborderai ce matin, puisqu'on est un petit peu dans Genèse pendant cet été. Mais il ne savait pas, je pense, comment j'aborderai le thème. Est-ce que j'allais me consacrer à parler du meurtre, combien de litres de sang ont coulé ou quoi, hein. Non, en fait, j'ai plus centré le message sur l'offrande. Et l'introduction de Jérémie était totalement axée sur l'offrande. Et vraiment, je vois l'Esprit de Dieu vivant. Merci Jérémie. Merci Seigneur. Je vous propose de commencer par une lecture. Donc, c'est dans Genèse 4. On va lire les versets 1 à 16. Peut-être je m'arrêterai avant, je ne sais pas. Donc, Genèse 4, c'est l'histoire, une histoire que tout le monde connaît, alors plus ou moins bien. Moi, je me suis rendu compte que je ne la connaissais pas très très bien en préparant ce message. Donc, Genèse 4, verset 1. De son union avec Adam, son mari, Ève, devint enceinte. Elle mit au monde Caïn et dit alors, « J'ai fait un homme grâce au Seigneur. » Elle donna aussi le jour au frère de Caïn, Abel. Abel fut berger et Caïn cultivateur. Au bout d'un certain temps, Caïn apporta des produits de la terre en offrande pour le Seigneur. Abel, de son côté, apporta en sacrifice des agneaux premiers-nés de son troupeau, dont il offrit au Seigneur les meilleurs morceaux. Le Seigneur accueillit favorablement Abel et son offrande, mais non pas Caïn et son offrande. Caïn en éprouva un profond dépit. Il faisait triste mine. Le Seigneur lui dit, « À quoi bon te fâcher et faire si triste mine ? Si tu réagis comme il faut, tu reprendras le dessus. » Sinon, le péché est comme un monstre tapis à ta porte. Il désire te dominer, mais c'est à toi d'en être le maître. Cependant, Caïn dit à son frère, « Sortons. » Quand ils furent dehors, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Le Seigneur demanda à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Caïn répondit, « Je n'en sais rien, est-ce à moi à surveiller mon frère ?» Le Seigneur répliqua, « Pourquoi as-tu fait cela ? J'entends le sang de ton frère dans le sol me réclamer vengeance. Tu es désormais un maudit, chassé du sol qui s'est ouvert pour recueillir le sang de ton frère, ta victime. C'est pourquoi tu auras beau le cultiver, il ne te donnera plus ses richesses. Tu seras un déraciné, toujours vagabond sur la terre. » Caïn dit au Seigneur, « Ma peine est trop lourde à porter. » Tu me chasses aujourd'hui du sol cultivable et je vais devoir me cacher loin de toi. Je serai un déraciné, toujours vagabond sur la terre. Quiconque me trouvera pour me tuer, quiconque me trouvera pourra me tuer. Mais le Seigneur lui répondit, non, car si quelqu'un te tue, il faudra 7 meurtres pour que tu sois vengé. Le Seigneur mit alors sur Caïn un signe distinctif pour empêcher qu'il soit tué par quiconque le rencontrerait. Alors Caïn partit habiter au pays de Nod, loin de la présence du Seigneur, à l'est d'Éden. Une petite question pour commencer. Vous n'êtes pas obligé de répondre. Qui, dans sa vie, n'a jamais eu la pensée ou l'envie de tuer quelqu'un ? Qui n'a jamais eu envie de commettre un meurtre ? Moi, souvent, en voiture, si j'avais un missile, j'aurais envie de faire sauter les camions d'autres fous du volant. Et peut-être que la deuxième question qui est plus importante, c'est vous êtes-vous demandé si vous avez eu cette envie, cette pensée, vous êtes-vous demandé pourquoi vous êtes arrivé à en avoir cette pensée ? Et c'est un peu l'orientation de ce matin, comprendre un peu pourquoi. Dans les trois premiers chapitres de la Genèse, nous découvrons les origines de l'histoire du monde, les débuts de la vie, puis arrive la chute avec Adam et Ève qui désobéissent à Dieu. Et aujourd'hui, le récit que nous venons de nous lire nous plonge quand même dans quelque chose qui est assez obscur. C'est un crime qui est un petit peu odieux, et je trouve que ça fait vraiment un grand contraste avec le début de la Genèse où Dieu en fait nous a sensibilisés en disant Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela a été très bon. Donc Dieu voit du très bon, et de suite derrière la chute et l'expulsion du jardin d'Éden, et Cain qui va tuer son frère Abel. Et bon, comme je l'ai dit, je ne vais pas m'arrêter sur l'aspect du meurtre, l'aspect éthique. Hein. C'est pas le sujet du jour. Je vais plutôt commencer par regarder les faits. On va regarder un peu. Alors j'ai beaucoup pensé à toi, Pierre, en préparant, parce que c'est un peu une enquête, quoi. Ça, quand on étudie la Bible, c'est un petit peu une enquête. On est un peu comme un inspecteur. On étudie les faits, on cherche à comprendre les personnages. Et donc, on va essayer de s'interroger sur les personnages. Et bien sûr, dans une enquête, les inspecteurs, ils ont toujours des trucs à eux, ils ont des indices, hein, ils ont besoin d'indices. Et là, nous, la seule source d'information qu'on a pour travailler sur ce meurtre, en fait, eh bien, c'est le livre de la Genèse et par extension toute la Bible. Et à la première lecture de ce texte, eh bien, on ne comprend pas forcément pourquoi Dieu n'apprécie pas l'offrande de Cain. Mais une chose qui est évidente, c'est que l'événement déclencheur du meurtre, eh bien, c'est cette déception qui va être engendrée par Cain, qui voit son offrande qui n'est pas accueillie comme il le souhaitait par Dieu. Hein, donc c'est écrit, le Seigneur accueillit favorablement Abel et son offrande, mais non pas Cain et son offrande. Cain en éprouva un profond dépit, il faisait triste mine. Et pourtant, Cain était cultivateur, qu'est-ce qu'il aurait pu lui offrir d'autre que le fruit de la terre? Et autre question, pourquoi l'offrande d'un berger, l'offrande d'Abel est-elle bien accueillie et pas celle du cultivateur? On pourrait se dire, Dieu est injuste là. Ou alors, est-ce que c'est le prix de l'offrande d'Abel qui était bien supérieur au prix de l'offrande de Cain? Est-ce que c'est cela le critère, la valeur? Alors, bien sûr, personnellement, je ne crois pas que l'explication est là. Mais au départ, dans les deux cas, tout part d'une bonne intention, puisque les deux frères, eh bien, ils veulent montrer leur reconnaissance à Dieu en apportant ces offrandes. Mais si on s'attarde un petit peu plus précisément sur le texte, il y a une grosse différence entre ces deux offrandes. Cain offre des fruits de la terre. Donc, c'est quelque chose qui l'accueillit et mis tout simplement peut-être dans un panier. Alors que on voit que Abel apporte un produit qui est sélectionné, un produit trié, et il est préparé avec les meilleurs morceaux. Hein, donc des premiers-nés de son troupeau et leur graisse, il est dit dans certaines versions. Les premiers-nés de son troupeau et leur graisse. Alors, pourquoi cette précision et leur graisse? À l'époque de la Genèse, eh bien, même bien après, la graisse représentait ce qu'il y avait de meilleur dans l'animal. Et dans la Bible, on parle aussi souvent de tuer le veau gras quand il faut avoir une grande réjouissance. Par exemple, dans Luc 15, quand le fils prodigue est de retour, ben le père ne lésine pas, il va offrir le veau gras. Et c'était vraiment une grande offrande. Et donc Abel, lui, offre à l'Éternel le meilleur de ce qu'il a dans le troupeau. Et peut-être que vous allez me dire, mais comment savoir si Caïn, lui, il n'a pas sélectionné les meilleurs fruits de la terre, les plus beaux? Je vous répondrai, ce n'est pas écrit, mais même on peut examiner de plus près la description de ces deux offrandes. Si on relit le verset 3 et le début du verset 4, Caïn apporta des produits de la terre en offrande pour le Seigneur. Voilà la description de l'offrande de Caïn. Caïn apporta des produits de la terre en offrande pour le Seigneur. Offrande d'Abel. Abel apporta en sacrifice des agneaux premiers-nés de son troupeau, dont il offrit au Seigneur les meilleurs morceaux. Donc la différence est vraiment claire. Hein, donc Caïn apporte des fruits de la terre, donc le résultat d'un travail accompli, mais là dans le texte il n'y a pas de qualification, d'implication personnelle pour cette offrande. Alors que Abel, lui, déjà dans le texte, il écrit « Abel apporte en sacrifice ». Donc là, il y a une forte idée de privation, quoi, de don de soi. Et il apporte des premiers-nés de son troupeau et leur graisse. C'est-à-dire, c'est le fruit d'un travail dans lequel il s'est investi totalement. Il s'est investi personnellement, le texte précise « son troupeau ». Hein, donc il y a les fruits de la terre et c'est les bêtes de son troupeau. Et il est parlé aussi des premiers-nés. Donc ce sont les meilleurs reproducteurs qu'il offre. C'est les premiers-nés de son troupeau. En fait, ils sont encore purs, il n'y a pas de consanguinité. Pour un éleveur, ils ont une immense valeur à cette époque. Et il fait fi de cette valeur, Abel, et il les offre en sacrifice pour Dieu. Donc il y a vraiment une différence fondamentale entre les deux offrandes, entre celle d'Abel et celle de Caïn. Alors, peut-être que certains vont me dire, Caïn, il a dû labourer sa terre, il a dû semer, désherber, mais ensuite il a simplement ramassé. Et pour continuer dans la comparaison, on voit que Abel, en sacrifiant ses meilleures bêtes, offre d'une certaine façon quelque chose de meilleur que Caïn, parce que Caïn, le don qu'il fait ne va pas engager sa récolte prochaine, ne va pas engager en fait des risques sur une future plantation. Il n'implique pas dans ce don, il n'implique absolument pas son avenir. Alors que Abel, lui, il sacrifie des éléments de son troupeau qui auraient contribué certainement à l'augmentation de son cheptel, qui auraient contribué à agrandir sa richesse. Donc l'implication, l'engagement personnel d'Abel est nettement supérieur à celui de Caïn dans leur offrande. Et je pense que c'est vraiment là un premier enseignement fondamental qu'on peut retenir ce matin pour notre vie spirituelle et pour pour notre relation avec Dieu. Une offrande, eh bien, ne doit pas être faite, elle ne doit pas être préparée à la légère. Abel s'est donné en sacrifice il a sacrifié une partie de ses richesses pour Dieu et pas trop qu'un. Et ce n'est donc en fait pas la la valeur de ce qui est offert qui compte. Mais enfin oui, c'est pas forcément la valeur de ce qui compte, de ce qui a été offert, pardon, qui compte. Et on le voit dans de nombreux textes. J'ai sorti par exemple Amos 5, versets 21 et 22. Donc, qui vont nous montrer que c'est pas forcément la valeur de financière, on va dire, de l'offrande qui compte. Donc Amos 5, versets 21 et 22. Je déteste, je méprise vos pèlerinages. Je ne puis sentir vos rassemblements quand vous faites monter vers moi des holocaustes et dans vos offrandes, rien qui me plaise. Vos sacrifices de bêtes grasses, j'en détourne les yeux. Donc, vous voyez, Dieu avait accepté la graisse du sacrifice d'Abel, mais c'était pas ça le fondamental. On le voit aussi dans Ésaïe. Que me fait la multitude de vos sacrifices? Les holocaustes de bélier, la graisse des veaux, j'en suis rassasié. Le sang des taureaux, des agneaux et des boucs, je n'en veux plus cesser d'apporter de vaines offrandes. La fumée, je l'ai en horreur. La fumée, je l'ai en horreur. Encore quelques versets dans Ésaïe 66. On sacrifie le taureau, mais aussi on abat un homme. On immole la brebis, mais aussi on assomme un chien. On élève une offrande, mais c'est du sang de porc. Là, vous voyez dans ce verset vraiment une opposition entre l'offrande, la valeur de l'offrande et le comportement. Samuel dit dans 1 Samuel 15, verset 22, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Et pour faire écho à Samuel, une parole de Jésus dans Matthieu 7, versets 21-23, ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Encore une opposition entre l'offrande et le comportement. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom, n'avons-nous pas chassé des démons par ton nom, et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ?» Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Au sujet des offrandes, l'apôtre Paul tiendra aussi des propos très proches. Dans 1 Corinthiens 13, verset 3, « Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. » Littéralement, en hébreu, c'est « si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien, je n'existe pas ». Nous avons donc vu que l'offrande n'était pas la bonne, mais on peut noter que, dans le texte, on peut noter que, que Dieu va regarder, avant de regarder l'offrande, on voit dans le texte en fait que Dieu regarde en premier la personne de Caïn. On peut relire ce texte. Dieu ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. C'est le verset 5 de Genèse 4. Et en réalité, il y a beaucoup de lecteurs de ce texte qui vont concentrer leur attention sur l'offrande, sur les apparences, sur l'aspect matériel de l'offrande. Et c'est là la grande erreur que l'on peut commettre. Ce n'est pas l'offrande, en fait, qui est importante, c'est bien ce qu'elle traduit. Comment l'offrande, d'où vient cette offrande? Dieu a d'abord regardé Caïn avant de considérer son offrande. Et je pense que c'est vraiment important d'insister sur ce point. Dieu regarde d'abord Caïn avant de regarder l'offrande. Et nous tous, nous savons que Dieu sonde les cœurs, Dieu nous sonde au plus profond de notre être. Et Dieu a d'abord regardé Caïn, il a d'abord sondé Caïn. Et c'est bien cohérent avec tout ce que nous venons de lire. Par exemple, dans Corinthiens, quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Nous pouvons montrer dans notre vie de tous les jours une grande générosité, on va dire. Dans notre vie de tous les jours, même à l'église, on peut montrer cette grande générosité. Mais ce qu'il faut savoir à la lumière de ces textes, c'est qu'elle ne sera pas forcément bien accueillie par notre Père céleste. Dieu va d'abord regarder ce qu'elle traduit. Dieu va regarder ce qu'elle traduit notre offense. Et notre offrande, pardon. Est-ce que c'est de l'orgueil? Est-ce que c'est de l'hypocrisie? Est-ce que ça va être de la vantardise? Est-ce que ça va être une offrande par intérêt? Ou est-ce en premier lieu de l'amour pour Dieu? Est-ce de la reconnaissance pour tout ce qu'il a fait dans nos vies? Quelle est en fait notre offrande à Dieu? J'aime bien dans Ésaïe 11 la fumée gelée en horreur. N'en voyons pas de la fumée qui est quelque chose qui va se disperser dans le ciel qu'on ne verra plus à notre Dieu. La fumée, Dieu l'a en horreur. Alors comment Caïn réagit à cet accueil un peu défavorable de Dieu? Ben, je crois que Caïn, en fait, n'a pas compris l'attitude de Dieu. Il l'a même perçu très négativement. Et pour lui, pour Caïn, il y a injustice. C'est un scandale. C'est injuste par rapport à son frère. Et on voit sa réaction. Hein, c'est Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Dans le texte original en hébreu, il y a une traduction qui dit que Caïn s'enflamme et ses faces tombent. Caïn s'enflamme, il prend feu, donc pour ceux qui sont un petit peu colériques, moi souvent c'est intérieur, mais ça bouillonne. Hein. Et donc il s'enflamme et ses faces tombent. Donc quelque part, il se retrouve à nu devant Dieu. Et je ne sais pas si Caïn avait les éléments pour comprendre pourquoi Dieu n'acceptait pas son offrande, mais j'aurais tendance à dire que oui, parce que Dieu était tout proche, on le voit, il vient discuter avec Caïn, et il a formé, on peut dire, Adam et Ève, il leur a dit, ben, ça vous pouvez faire, ça vous pouvez pas faire. Alors je ne vois pas pourquoi Caïn n'aurait pas eu la compétence de comprendre le pourquoi du refus de l'offrande. Mais visiblement, vu sa réaction, il était persuadé d'avoir bien agi et il se croyait dans son bon droit. Et c'est ce qui fait qu'étant persuadé dans son bon droit, eh bien, il n'a pas pu saisir, il n'a pas pu comprendre la démarche de Dieu à son encontre. Hein. On note, j'aime bien, je note les deux différences de réaction. Bon, Dieu qui quelque part est agressé, on se moque de lui avec une offrande. Et Dieu reste calme, il vient parler avec... avec Caïn, il essaye de lui expliquer, et puis de l'autre côté, on voit Caïn qui rue dans les brancards, quoi, carrément. Donc, il y a vraiment deux différences, et moi, je vais vous proposer peut-être de faire une petite pause, hein. C'est comme quand on regarde des enquêtes policières à la télé, il y a toujours une petite page de publicité qui vient nous embêter, et ceux qui en ont envie, je vous invite à fermer les yeux, peut-être baisser la tête, et d'essayer de se souvenir de moments de notre vie où nous ressemblons justement à Caïn dans nos réactions. C'est des moments où nous sommes vraiment convaincus, nous sommes bornés, nous sommes sûrs d'avoir raison, d'avoir la bonne attitude, et des moments où il est hors de question que nous en changions. Et est-ce que dans ces moments-là, Dieu, en tenant compte de notre état d'esprit, va pouvoir recevoir favorablement nos demandes, nos offrandes? Est-ce que Dieu va pouvoir accueillir favorablement notre louange, nos prières? Dans ces moments-là d'entêtement, est-ce que nous-mêmes, comme Caïn, on peut recevoir favorablement la parole de Dieu si elle est transmise par un proche, par son conjoint? Je vous propose 30 secondes vraiment de silence. Alors, Caïn s'est enflammé. Il a complètement perdu le contrôle de la situation. Il a perdu, hein, le texte le dit, il a perdu ses faces, il a perdu la face devant Dieu. Et Caïn est vraiment en colère contre Dieu. Et lorsque l'on est dans cet état vis-à-vis de quelqu'un, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais tout échange, communication, toute tentative de négociation, de discussion, quand on est vraiment en colère, et c'est vraiment compliqué, il y a comme un voile, et le moindre mot de l'autre mal interprété peut déclencher une explosion, peut déclencher un conflit. Et le conflit dans notre histoire, eh bien, il conduit au meurtre d'un innocent, parce que Abel va être tué. Et nous connaissons tous aussi le conflit qui a entraîné la mort d'un autre innocent, la mort du Fils de Dieu. Et la question que j'aimerais qu'on se pose peut-être aujourd'hui, c'est où nous mènent nos petits conflits personnels? Où nous mènent nos guéguerres en famille, peut-être même à l'église, au travail, nos petites jalousies, etc. Et si Caïn s'était un peu plus interrogé sur la relation qu'il devait avoir avec Dieu, eh ben, peut-être qu'il aurait perçu différemment le refus de cette offrande. Il aurait... Peut-être là, à ce moment-là, il se serait dit, il aurait pu découvrir en fait un Dieu rempli d'amour. Mais malheureusement, le sentiment d'injustice a attisé les flammes de sa colère et l'a rendu complètement inapte à percevoir ce qui était caché derrière ce refus de Dieu. Il n'a pas pu comprendre que, en fait, c'était une invitation à améliorer sa relation avec Dieu. C'était une invitation à avoir une relation franche et sincère avec Dieu. Il y a un proverbe qui dit « La colère est mauvaise conseillère ». Je ne sais pas si vous l'avez expérimenté, mais pour ma part, oui. Donc, voyons maintenant l'attitude de Dieu. Voyons cette attitude qui est vraiment admirable. Donc, tout d'abord, Dieu vient sur le terrain de Caïn. Il ne l'ignore pas, il aurait pu le punir, le détruire, mais il vient sur le terrain de Caïn. Il ne lui applique pas le principe qu'on découvre dans Genèse 21, qui est œil pour œil, dent pour dent. Dieu, déjà dans la Genèse, Dieu déjà dès le début est un Dieu de grâce. Nous avons, mes frères, mes sœurs, nous avons un Dieu de grâce. Et Dieu va questionner Caïn sur la furie, sur sa furie, sur son emportement. Hein, il est l'Éternel, dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Donc l'Éternel questionne Caïn, mais il ne le juge pas. Caïn n'est pas jugé encore. Donc l'Éternel, là, il vient un petit peu comme si c'était un docteur, un thérapeute. Et on pourrait penser que ce refus de cette offrande qu'a fait Caïn, qui était vide de tout engagement, représente une sanction, mais à mon sens, c'est vraiment autre chose. Et Dieu veut montrer à Caïn qu'il se trompe, qu'il n'est pas sur un bon chemin, que sa relation avec son Créateur, elle est fausse, elle est hypocrite, comme on l'a vu, on l'a lu, que sa relation est une espèce de fumée. Donc on a l'impression que Dieu lui dit, ce n'est pas ça la relation que j'attends de toi, c'est tu te trompes, tu n'es pas entièrement avec moi, tu n'es pas totalement engagé avec moi. Et Dieu ne peut pas accepter une relation mitigée, posée sur de mauvaises bases. Dieu en veut plus. Et on peut donc noter aussi que là, que Caïn a de l'importance pour Dieu. Dieu est amour. Et on peut faire un parallèle avec le chapitre précédent où Adam et Ève s'étaient cachés, où Dieu veut venir causer avec eux, puisqu'il leur dit, il dit à Adam, où es-tu dans Genèse 3? Donc Dieu est vraiment un Dieu qui est en recherche d'une vraie relation avec nous. Dieu ne se satisfait pas d'un échange approximatif. Tiens là, j'ai lu ma Bible, mes 10 minutes réglementaires ce matin, c'est bon, je peux partir au travail. Dieu veut quelque chose de vrai, et c'est cela qu'il veut enseigner en fait à Caïn. Romains 12, offrez-vous comme des sacrifices vivants, c'est ce qui est raisonnable pour Dieu. Donc, Dieu veut entretenir le dialogue. Dieu continue à parler à Caïn. Et il lui dit, certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et les désirs se portent vers toi, mais toi domines sur lui. D'autres versions disent, le péché est tapi comme un monstre à ta porte. Et pour ceux qui connaissent, qui lisent bien la Bible, eh bien, c'est ça pendant toute la Bible. Dieu ne cesse de parler à son peuple. Dieu, chaque jour, veut nous parler en tête à tête, comme il le fait avec Caïn. Et on voit aussi que Dieu, il veut être positif, il veut être encourageant dans sa relation avec Caïn. Parce qu'il lui dit, en fait, si tu es bien disposé à mon égard, eh bien, tu n'as rien à craindre de l'avenir. Mais dans le cas contraire, ben, voilà ce qui peut t'arriver, ce qui va t'arriver. Donc, Dieu est là, non pas pour le sanctionner, il l'invite à aller au-delà de sa colère, il l'invite à aller au-delà de son emportement. Et ce qu'il veut, Dieu, c'est que Caïn intègre cet enseignement qu'il essaie de lui faire passer par le refus de son offrande. Il lui dit, en gros, ta mauvaise perception de mon refus peut être surmontée. Tu peux relever la tête et avancer. Par contre, si tu t'obstines, eh bien, il faut que tu en connaisses les conséquences. Donc, l'Éternel encourage, veut pousser Caïn à faire le bon choix. C'est un peu, si tu fais le bien, alors. En fait, ce qu'on voit, c'est que il y a une ouverture qui est possible pour déjouer ce mal qui est rentré dans l'homme. Hein. Donc, on le sait depuis la séduction en Éden, le péché il a été jeté dans notre cœur. Mais Dieu, il prouve son amour, il prouve sa bienveillance en montrant qu'il nous a donné la capacité en fait de réagir, puisqu'il dit à Caïn, si tu réagis comme il faut, tu reprendras le dessus. Hein. Donc hein, il lui dit, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Hein. Donc sinon le péché est comme un monstre tapis à ta porte. Il désire te dominer, mais c'est à toi d'en être le maître. Donc, Dieu prévoit en fait le crime, et il est là, il lance un dernier avertissement à Caïn, mais on l'a vu, Caïn ne peut pas, ne va pas l'entendre, et on voit que il est possible à un moment donné d'entendre, par exemple, dans l'histoire de David, qui va nous apprendre que vraiment une reconnaissance sincère de son péché, d'une faute que l'on a commise, peut permettre le dépassement de cette faute, sans pour autant gommer des conséquences. La reconnaissance d'une faute ouvre la porte au pardon. Et dans cette histoire que nous avons lue, jusqu'au verset où Dieu incite Caïn à réagir, eh bien Dieu ne fait aucun reproche ouvert à Caïn. Dieu fait de la prévention. Dieu alerte Caïn, et je pense qu'en même temps Dieu veut ce matin peut-être nous alerter qu'il y a un intrus, hein, de parler du monstre tapis à notre porte. Il y a donc un intrus qui se cache avec des intentions malveillantes. Et on voit que Dieu fonctionne un petit peu comme un détecteur de, je pense à mes beaux-parents qui ont leur sonnette d'alarme qui a sonné, enfin leur alarme qui s'est déclenchée alors qu'ils sont en vacances. Et Dieu agit un peu comme ça, il veut nous mettre en garde, il veut nous avertir qu'il y a un danger. Malheureusement, nous connaissons la fin de l'histoire, Caïn tue Abel. Caïn n'a pas tenu compte de l'avertissement divin. Caïn a persisté dans son entêtement, dans son emportement, et il est passé malheureusement à l'action. Alors, peut-être qu'un autre enseignement ce matin, c'est soyons attentifs aux avertissements que nous envoie Dieu, et ils sont là non pas pour nous reprendre, pour nous punir, mais ils sont d'abord là pour nous protéger. J'en arrive à la fin. Donc, pour conclure, j'aimerais juste rappeler quelques points. Premier point, ce n'est pas le prix matériel de nos offrandes qui importe à Dieu. Il y a un passage aussi dans l'Évangile où il y a une vieille femme qui offre que des petites pièces par rapport aux pharisiens, et puis Jésus dit « c'est la bonne offrande ». Deuxième point, ce qui est important pour Dieu, c'est ce que traduit l'offrande. Quelle est ton implication, quel est ton engagement personnel qui a fait que ce matin tu apportes cette offrande à ton Dieu? Troisième point, si Dieu vient nous voir, quel accueil on va lui réserver? Si Dieu me reproche tout un pan de ma vie, est-ce que je vais être Caïn ou est-ce que je vais adopter une attitude différente, peut-être comme celle dont j'ai parlé tout à l'heure en citant David qui avait commis un adultère, puis un meurtre, une attitude d'humiliation. Quatrième point, avons-nous compris cet amour de Dieu qui veut nous enseigner pour nous protéger du pire? Cinquième point, Dieu est un Dieu de grâce. Et un sixième point, je vois dans ce texte, dans la vie d'Abel, en fait, dans la vie de Caïn, j'espère que je n'ai pas trop mélangé souvent Abel et Caïn, j'ai l'impression que ça décrit nos vies. Donc, puisqu'il y a des épreuves, et puis à la fin, il y a un jugement. Et le jugement, il n'aura pas eu la bonne part. Et enfin, dernier point, c'était pour rebondir sur la première question que je vous ai posée concernant la pensée de commettre un meurtre. Une citation de Jésus dans Matthieu 5, versets 21 à 24. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras pas. Et quiconque tuera sera passible du jugement. Mais moi je vous dis que quiconque se met en colère légèrement contre son frère sera passible du jugement. Quiconque se met légèrement en colère contre son frère sera passible du jugement. Et quiconque dira à son frère « Raca » sera passible du jugement du Sanhédrin. Et quiconque dira « Fou » sera passible de la géhenne du feu. Si donc tu offres ton don à l'autel et que là, il te vienne que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton don devant l'autel et va d'abord réconcilie-toi avec ton frère et alors viens et offre ton don. » Et je crois vraiment que si on a cette démarche, eh bien, Dieu le verra à ce moment-là. Et il verra à ce moment-là ce que traduit notre offrande au travers de cette paix, au travers de cette réconciliation que on sera allé chercher. Donc, vraiment, on aura fait ce que Dieu a fait avec Caïn, on sera allé vers la personne en colère. On aura montré de l'amour. Et Caïn, lui, n'a pas su gérer cette colère, il n'a pas su aller voir la personne avec qui, il n'a pas su écouter la personne avec qui il était fâché. Et pour Jésus, rien que le fait de penser à ce meurtre, eh ben, il était déjà meurtrier puisqu'il nous est dit sur la colère, pardon, quiconque se met en colère légèrement contre son frère sera passible du jugement. Amen.
Je vous propose de prier pour terminer. Et notre Père, quand on voit cette histoire, on est triste de voir Caïn qui n'écoute pas le Seigneur et qui laisse le péché agir en lui, va tuer son frère. Je prie, Seigneur, que ça puisse être un contre-exemple qui nous invite à quand tu nous reprends aussi à t'écouter et à revenir à toi. Et Seigneur, je te prie que, en effet, notre cœur soit proche de toi et qu'on te recherche dans toute notre vie. Amen.